Eh, vous avez entendu l'info sur les radios assos ? Ça fait flipper, Bolloré rachète plein de radios associatives, là. Comme ils ont supprimé les fonds de soutien à l'expression radiophonique, les radios assos ne peuvent plus financer de projets, tout le monde est dans la merde, et Bolloré leur propose des solutions financières. Et elles acceptent, les unes après les autres, c'est horrible.
Ah ouais, la merde.
Allô ?
Putain, c'est Vincent Bolloré !
Non, ça ne nous intéresse pas. Notre radio n'est pas à vendre.
Ah non.
Mais... Ah non, pas du tout. On a payé. On était juste un peu en retard. Ah non, ça c'est pas la SACEM. Non, attendez une seconde.
Bon, il propose de payer toutes nos cotisations SACEM pour les 3 ans à venir, de nous fournir une bande FM et même de rembourser le barnum déchiré. Plus une place pour la caravane studio dans un garage au sec à Brest même. On fait quoi ?
Belle haut-parleur, comme ça on pourra tout parler.
Monsieur Bolloré, vous nous entendez ?
Oui, il s'agit d'une offre publique d'achat hostile, vous n'avez pas le choix.
Non mais c'est n'importe quoi ! Vous croyez quoi là ? Qu'on est une société cotée en bourse ou quelque chose comme ça ? Non mais vous le délirez complètement ! Vous parlez à un média libre et non commercial !
Non, vous êtes ma propriété, l'Arcom vous a vendu. Radio Picasse est à moi, je vais mettre mes chroniqueurs nationalistes bretons sur la midinale. La messe en boucle dans vos playlists le dimanche. Et votre émission du pain et des parpaings, là. Ça s'appellera désormais du pain et des jeux. Ça parlera de taureau piscine et ce sera animé par Jean-Pierre Pernaut. C'est fini les gauchistes. Fini les manifs. Fini les déguisements colorés. Maintenant, on se tient sage sous les caméras. On dégage les étrangers. On enferme les éco-terroristes et les squatteurs. On restaure la civilisation catholique éternelle. Et on combat pour la France. Avec mes nouvelles armes Blue Technology.
Ces terres-là, elles vont être artificialisées.
En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes.
Vous avez le capital.
Achetez des forêts pour enraciner vos placements.
Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser, de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, bah...
Ils continuent à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
L'appareil policier a procédé à des perquisitions et des interpellations auprès de 9 personnes.
Du pain et des parpaings !
Du pain et des parpaings.
Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
Un ensemble d'actes de désobéissance civile, volontaire et réfléchie.
Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
Salut et bienvenue dans notre 19e émission. Du pain et des parpaings suit toujours l'actu des luttes contre l'accaparement des terres, des corps et des esprits, contre la construction des murs de parpaings et de frontières, qu'elles soient concrètes ou symboliques.
On vous avait annoncé, la dernière fois, une émission sur la Kanaky. Mais ce sera celle de novembre. En attendant, actualité oblige, on est parti à la mer, embarqué dans un rassemblement contre l'Empire Bolloré.
Bolloré, c'est le symbole du colonialisme au XXIe siècle. C'est la technologie et son extractivisme, c'est l'emprise des médias et la fascisation des esprits.
Ça n'a échappé à personne que l'extrême droite gagne du terrain, autant dans les urnes qu'à travers les attaques racistes qui se sont multipliées l'été dernier.
Et ça, nous, ça nous interpelle. Ici en Bretagne, une région qui a la particularité de produire des stars de l'extrême droite, tout en étant une terre historiquement antifasciste. En tout cas, l'extrême droite n'y a jamais fait de score spectaculaire dans les urnes, ni aux dernières élections, et encore moins en 1981.
Jean-Marie Le Pen, vous n'êtes pas prophète en votre pays, alors comment expliquez-vous la défection des maires bretons à votre égard ?
Eh bien écoutez, je dois dire que je sais que le sentiment n'a pas grande place dans la politique, mais je dois dire que j'en ai tout de même été affecté. J'attendais, étant le seul candidat breton, que les départements bretons me fournissent la plus grande proportion de maires. Et malheureusement, la Bretagne s'est inscrite dans les régions qui m'ont été le moins favorables. Et je regretterais que ce soit à cause des bretons que je ne puisse pas me présenter. Il y a plein de façons de contrer le fascisme et le racisme. On a eu envie d'aller traîner dans les événements Antifa, mais aussi de faire entendre des personnes qui vivent ici et qui luttent tout simplement pour pouvoir vivre dignement, sans être attaquées, pour pouvoir circuler librement, pour avoir une sécurité sociale, pour avoir des droits du travail et pour ne pas se casser le dos, pour habiter à la ville ou à la campagne. Une autre façon de le dire,
occuper le terrain.
Alors pour tout ça sur le plateau, aujourd'hui il y a Capsule,
Zèbre,
Sarah,
Tiffen,
Georges.
Et notre invité,
Brigitte.
Salut Brigitte.
Salut.
Salut.
Et il devait aussi y avoir Booba, mais Booba n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il est encore coincé sur son chantier alors qu'il est tard, tard, tard et que la nuit est tombée depuis longtemps.
Mais pour commencer cette émission, on rembobine un peu dans le temps. Le 5 octobre dernier, on est parti à Concarneau pour une manif un peu spéciale. Ça devait être un rassemblement maritime, plein de bateaux rassemblés dans l'archipel des Glénans, en face de Concarneau, pour gueuler contre Bolloré et la bolosphère.
On en avait déjà parlé dans l'émission précédente. Les soulèvements de la Terre ont lancé une campagne contre l'Empire Bolloré et tout ce qu'il incarne.
L'accaparement des terres, des rails, des sols qui fournissent les métaux rares, des mers et des îles.
Mais aussi des ondes, des médias, des urnes.
Et pour finir, ce sont nos corps eux-mêmes qui sont à la merci d'un système fasciste, répressif, carcéral, policier, haineux. Lorsque des arrestations de militants et militantes ont lieu, lorsque des exilés se retrouvent dans l'écra, lorsqu'on nous interdit l'accès à des lieux qu'on fréquentait pour les gentrifier et lorsqu'on détruit des lieux autogérés.
Bref, le monde que nous propose l'extrême droite, malheureusement, on le connaît déjà un peu et on aimerait bien s'en débarrasser.
L'Empire Bolloré, elle a été lancée pendant l'entre-deux-tours des législatives en juin dernier. Et si la montée du fascisme en Europe et en France, elle date pas des semaines et des mois derniers, ce moment précis nous a permis de réaliser que l'arrivée du pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite en France, c'était une réalité qui était plus que plausible à très court terme. Depuis des années, le groupe Bolloré exploite des terres en Afrique et en Asie du Sud-Est, et ils rachètent des industries dans le domaine du contrôle des flux de personnes comme de marchandises et dans les médias. Il est détenteur notamment de CNews, d'Europe 1, du JDD et d'une part considérable à la fois de la presse et des éditions en France. Le groupe Bolloré véhicule massivement les idées de l'extrême droite. Et la mission civilisationnelle, telle qu'il la nomme, de Vincent Bolloré, c'est bien l'avènement d'un monde où l'exploitation des terres et des hommes à l'autre bout de la planète se double, cynisme néocolonial absolu, d'une volonté ici de diaboliser les étrangers, que l'on empêcherait non seulement de vivre l'exploitation de leurs terres là-bas, mais aussi de se déplacer. Après plusieurs assemblées durant l'été, notamment au village de l'eau, à Mel, cet été en juillet, le rassemblement de lever les voiles, même si aujourd'hui la météo empêche l'action maritime, lance en acte le début de cette campagne qui va durer pendant des mois et aussi longtemps qu'il le faut et qui verra dans les semaines et dans les mois à venir une multitude d'actions fleurir un peu partout sur le territoire.
D'autorisation et voilà, on n'a pas eu de soucis particuliers avec la préfecture.
Okay. Voilà. L'objet de la manif n'était pas spécialement.
Oh bah c'était un objet pour ce que c'est quoi, une kermesse avec des prises de parole, une assemblée.
Bah en fait, on fait un peu partie de la kermesse et du coup, on s'est dit on va encore plus s'habiller, mettre en couleur et on a fait des petites cagoules ce matin même, de un peu poulpe comme ça.
Oui, alors on a fait plein de cagoules comme ça là, des petits. En fait, c'est juste il y a des trous pour les yeux, des trous pour les, des petites fentes pour les oreilles et des petits zigouguis sur le visage et on en a fait une quarantaine. Et du coup, vous pouvez vous servir, je pense du coup au stand kermesse. Oui, il y a une volonté de rendre ça festif tout en cachant un peu son visage quand même et qu'il y a il y a ce truc-là, qu'il y a plein de caméras partout, on sait qu'il va y avoir une grosse présence policière et que c'est chouette aussi de et se barioler un peu et pas être complètement reconnaissable et se mélanger tous ensemble.
Je participe à la kermesse pour amener un peu de vie à la manifestation et qu'on passe du coup l'après-midi à pouvoir parler de sujets politiques et de ce sujet-là précisément et qu'on puisse aussi s'amuser et passer des bons moments tous ensemble.
Et on est venu avec un jeu qui s'appelle la pêche au canard. Voilà, on a un collectif de jeux de fêtes foraines artisanales quoi. Donc voilà.
Cool.
Mais c'est assez rigolo de se retrouver à côté de la pêche au connard, quoi.
Ah ouais, ok. Bolloré, Arnaud, Barnier, Lapierre. Ah, Vincent Lapierre, notre super copain. Cyril Hanouna. Ah, ok, ok. Macron. Ok, non, bah, y a tout le monde, c'est cool.
Tu peux nous décrire l'install, là ?
Du coup, là, ici, là, c'est une pêche au connard. Du coup, on a un joli bac rempli de plein de merdes humaines qui sont dedans. Et qu'il va falloir sûrement aller pêcher pour savoir qu'est-ce qu'on en fout. Je sais pas, je sais pas trop quoi te dire.
Alors quel connard t'aimerais bien pêcher ?
Bah lui là déjà, le petit Marc de Cacré, la Thaïs des... Bah en fait, ouais, je crois que je vais pas être sélectif. Hein. Je vais faire de la pêche au gros.
Si ton Charles Gave, ce millionnaire proche des réseaux identitaires et supporter de Donald Trump, il est le président du think tank Institut des Libertés et se déclare partisan de la théorie du grand remplacement. Véritable mécène de l'extrême droite, il a contribué aux campagnes de plusieurs candidats FNRN et Reconquête. Citons aussi Pierre-Édouard Sterrin, le cofondateur et le principal actionnaire du groupe Smartbox. Cet exilé fiscal en Belgique veut sauver la France et par la même occasion devenir un saint, rien que ça. Ce cateau traditionnaliste a lancé un projet baptisé Périclès, qui vise à aider le RN et LR à conquérir le pouvoir, et pour faciliter l'ascension au pouvoir de celles et ceux qui défendent l'islamophobie, il est prêt à biberonner la droite et l'extrême droite à coups de millions d'euros. Et pour former des journalistes à son image, qui demain vont abreuver les médias de la haine, il participe au financement de l'Institut libre de journalisme.
Vincent Bolloré, Sunercore. Ça veut dire suceur de caca. C'est très radical comme message. En fait, on passe à une stratégie offensive de manière à ce qu'il ne revienne plus ici, en le menaçant quand même avec des grosses insultes.
Du carton et du gros scotch.
Ouais, ouais, ouais. Et du fagot, du bois de fagot. Oh, radical, radical. Ouais.
On n'a pas encore tout entendu de cette action. S'il y a eu ce rassemblement à Concarneau, c'est parce que, juste en face, il y a l'archipel des Glénans. Les Glénans, c'est aussi le nom de l'école de voile, qui jouit d'une belle réputation. Son histoire est liée à celle de la résistance à l'occupation nazie et à l'éducation populaire.
Seulement aujourd'hui, parmi les îles de l'archipel, il y en a une, l'île de Locke, qui appartient à Vincent Bolloré. Et il y interdit l'accès aux visiteurs depuis qu'il en est devenu le propriétaire exclusif. Il paye des vigiles pour la garder, qui matent les bateaux qui s'approchent avec des jumelles et parfois même agressent verbalement les plaisanciers.
Et récemment, il a engagé Marc de Cacré-Valmeignier pour gérer ce service d'ordre, mais aussi pour accueillir des visiteurs et visiteuses qui viennent à des messes privées organisées sur l'île. Marc de Cacré-Valmeignier, c'est une raclure néo-nazie, en procès notamment pour avoir tabassé des Marocains à la sortie d'un match de foot et des militants de SOS Racisme qui s'étaient incrustés à un meeting d'Éric Zemmour pour une performance. Sa fiche Wikipédia, c'est un festival d'horreur. Il est entre autres connu pour avoir réactivé le GUD en 2022.
Alors, on retourne à Concarneau, où les organisatrices avaient préparé une petite surprise.
Un bateau avec marqué « Île Bolloré, néo-nazi protégé ». Embarquons au printemps. C'est hyper beau. Il y a quelqu'un qui est en train de porter un fumigène rouge. Et il y a toute la foule autour là. C'est super ambiance.
Ah,
Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette petite surprise?
Alors, en fait, c'est des militants et militantes qui sont rentrés dans le musée, puis allés faire la visite sur le bateau, et qui, à ce moment-là, ont sorti un slogan en lettres.
Sommes tutti antifascisti.
Non, c'était chouette. On a eu un petit moment où on ne savait pas si on allait pouvoir monter sur le bateau. Et au final, les personnes qui ont voulu faire obstacle, c'était pas les flics, c'était du personnel du musée qui ont voulu bloquer la porte. Et là, il y a quelqu'un qui a eu un super réflexe de mimer une crise d'épilepsie, un truc, ce qui fait que ça l'a un peu déconcentré. Et en même temps, elle a capté direct, elle a fait « faut fermer, faut fermer ». Et à ce moment-là, nous, c'était le signal, on est tous rentrés. Et c'était trop tard parce qu'on était dedans. Voilà, ça, c'était quand même chouette, c'était rigolo.
Et en fait, c'est le club des randonneurs de Guidel qui est rentré, en fait. Parce qu'il a bien fallu donner l'identité et on trouvait ça drôle. Le club des randonneurs et randonneuses de Guidel. Et voilà. Et donc, le personnel du musée, je pense qu'ils ont...
Elle s'est pas fait avoir. En sortant, la nana du musée, elle nous dit « Mais j'ai bien vu que vous n'étiez pas des randonneurs, on ne me la fait pas, moi. »
Oui, mais on a payé les billets. Hein. Et on a eu un tarif de groupe. Le tarif de groupe, c'est 3 euros par personne et c'est gratuit pour les accompagnateurs. Et moi, je trouvais ça génial de faire ça. Et je pense qu'elles vont pas nous en vouloir, au fond. Parce que, mine de rien, ça fait des souvenirs et les photos vont être belles. Peut-être on les verra dans le musée.
Aujourd'hui, l'Empire Bolloré, du coup, notamment dans les médias, participe à répandre les idées racistes un peu partout et tout le temps. Du coup, toi, Brigitte, de ton point de vue, c'est quoi les manifestations du racisme dans notre société ?
Il y en a partout. Peut-être déjà le délit de faciès. Je vois à Brest, la police arrête plus facilement quelqu'un qui a une tête d'arabe ou bien qui est carrément noir. C'est plus facile. Quand un jeune Africain cherche un logement, on va lui dire « Ah, ben attendez, pas tout de suite, on va demander au propriétaire, on lui fait remplir plein de papiers. »
Du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais une histoire comme ça avec...
Bah oui, c'est un jeune qui repère un appartement dans Brest qui lui plaît, dans une agence immobilière. Donc, il téléphone, il dit « j'aimerais bien visiter cet appartement ». Et simplement, je pense à la voix, on lui a dit « non, il est déjà loué ». Donc moi, un quart d'heure après, je téléphone. Et je dis « j'aimerais bien visiter cet appartement-là, il me plaît bien ». Et moi, j'ai eu un rendez-vous tout de suite.
Peut-être par rapport au discours sur les sans-papiers ou même juste les migrants, les gens qui arrivent en France, comment on peut réagir de ton point de vue, vu que toi tu travailles beaucoup avec les migrants ?
Moi d'abord je trouve que c'est un préjugé. Dès qu'on connaît ces jeunes ou ces moins jeunes, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Par exemple, les jeunes qui sont africains notamment, qui sont scolarisés à Brest, les profs, ils sont hyper contents. C'est des jeunes qui n'ont eu qu'une idée dans leur vie, c'est d'aller à l'école. Et donc, ils donnent le maximum dans les cours où ils sont. Alors que je pense que les mêmes Français qui sont dans ces classes, ces lycées professionnels ou en apprentissage, c'est un peu le dépotoir. Donc, ils n'ont pas envie d'être là. Nos Africains, là, ils sont là, ils n'ont qu'une idée. Eux, ils n'ont pas pu aller à l'école en Afrique et ici, en France, ils ont cette chance. Donc, en fait, le premier truc, c'est vraiment de rencontrer ces gens, ces personnes, ces jeunes ou ces moins jeunes, et puis de parler avec eux et de s'apercevoir qu'on se fait complètement des fausses idées sur eux, quoi.
C'est un peu l'objet, justement, du deuxième portage. Parce que dans le premier, on a entendu des gens qui s'organisent avec des kermesses et des actions spectaculaires sur des bateaux. Mais en fait, il y a plein de façons d'occuper le terrain face au racisme, de défendre une vision du monde où chacun, chacune aurait sa place, quelle que soit sa trajectoire.
Et donc c'est pour ça que ça faisait longtemps en fait qu'on avait envie d'aller rencontrer l'association à Lannion qui s'appelle A4, qui veut dire accueil en agriculture et artisanat, et qui a pour but de construire une dynamique d'accueil, de formation, d'accès au travail et d'accompagnement administratif de personnes donc dites avec ou sans papier, urbaines ou rurales, dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat donc.
Leur projet est né de rencontres de personnes souhaitant travailler et vivre de façon digne dans les domaines de l'agriculture ou de l'artisanat, mais qui rencontrent des difficultés pratiques du fait de leur situation.
Alors, quelques personnes de l'asso nous racontent déjà tout ça très bien au micro de Morgane Large dans l'émission La Petite Lanterne. Donc on vous mettra le lien dans l'article de l'émission. Nous, pour ne pas refaire un exposé de leurs activités nombreuses et de leur démarche qui est passionnante, on a choisi de vous faire entendre le point de vue d'Idriss sur l'accueil et l'accompagnement de personnes sans papier en France, par l'État, mais aussi par toutes ces bonnes volontés bénévoles qui tentent de combler les manquements d'un accueil digne de ce nom en France métropolitaine.
C'est parti.
Alors, on va se balader ?
Ouais, bel temps.
Moi, c'est Idriss Youssouf Abdallah. C'est un Soudanais qui est âgé de la maintenant de 35 ans. Il y a le moment du démantèlement de Calais, octobre 2016, qui m'a transféré à Tribordan, à côté de Lannion. À partir de là, j'ai commencé à créer un peu des réseaux avec des assos à gauche et à droite. Et j'ai fait la demande d'asile. Ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. J'ai trouvé un peu de travail à gauche et à droite, un peu... des amis, même si des fois je peux pas dire c'est des amis, mais tu te sens que tu es forcé dans plein de choses pour vivre, parce que c'est pas ta culture, parce que c'est pas ta vie, parce que j'ai pas envie d'aller crier à un autre quelque part. Du coup, ben, ça suffit par ça. Du coup, il y a la possibilité de trouver un endroit à dormir et aider dans des assos, et voilà.
Aujourd'hui, la situation politique, notamment ici en France, toi tu la ressens dans le collectif ?
Bah, c'est compliqué parce qu'en fait avec les oppressions systémiques qui fait que on n'a pas envie d'aller dans le côté gauche ou droite, ou voilà, on a envie que ça soit que quelque part un assaut collectif qui fait que toute personne pourra trouver sa place. Et dans le côté qu'on a vécu beaucoup, dans le côté gauche, en fait, qu'on a pensé, pour moi personnellement, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que même, il y a beaucoup, quand on dit, en fait, on n'est pas raciste, on est là, on défend pour les, je sais pas, les droits de l'homme, antiracistes, on te, voilà. En fait, il y a beaucoup de racistes intégrés, il y a beaucoup d'oppressions, il y a plein de choses qui font qu'en fait, il y a du travail à faire. Comment respecter l'un l'autre, comment donner la place à l'un l'autre, à la place de produire des oppressions systémiques qu'il fallait de plus en plus que. Les personnes étrangères, quand elles arrivent, on ne reconnaît pas leur savoir-faire. Ils dépendent toujours des personnes blanches. Quand on va dans plein de milieux, plein d'événements, quand on va, en fait, toujours, il y a que des blancs, il n'y a pas des personnes étrangères. Et j'ai posé plein de questions comme ça. Pourquoi ? En fait, toujours, dit, ah non, mais en fait, ils n'ont pas le temps, ils ont peur, parce que... Mais non, en fait, ce n'est pas qu'ils ont peur. Il n'y a pas de la place pour cette personne, c'est tout. Mais ce n'est pas qu'ils ont peur. Des collectifs qui rêvent charbonnant aussi, on fait ça, ça va être bien pour notre copain, pour les personnes sans papier. En fait, c'est pas pour eux, c'est travailler avec eux. Invite-le, venez, en fait, il y a tel organisme. Est-ce que ça vous va, on travaille ensemble ou pas? Est-ce que ça vous va ça? N'est pas dire en fait, non, on va travailler pour eux. Ça, c'est bien pour eux et ça, c'est pas bien pour eux. Mais où ils ont, où en fait, ces personnes? Quand on travaille dans les questions d'accueil, en fait, il y a aussi l'accueil, en fait, ils s'étaient pas invités, les personnes étrangères, pour travailler avec eux, en fait. Ça veut dire quoi pour vous, l'accueil? Qui a créé vraiment un gros souci que je trouve, en fait, dans les milieux eux-mêmes, qui a les gens, ils n'arrivent pas à accueillir des gens parce que les oppressions qui étaient créées et la façon pour laquelle les personnes étrangères qui étaient construites depuis des années, qui fait qu'en fait, quand ils arrivent, ils dépendent que des personnes blancs. Et ça a quand même une question de charité. En fait, toujours les gens, ils vont attendre. Et c'est une question de... Aidons, aider, ce n'est pas une question humaine. C'est une question de, en fait, moi j'étais parce que j'ai de la place. Et quand ils arrivent, en fait, il n'y a pas, même pas le côté de la personne accueillie soit lui-même. C'est la question sociale que lui, cette personne a besoin que la personne le voit. En fait, moi j'ai accueilli parce que moi je suis quelqu'un du bien. C'est un travail qu'on essaie de faire à quatre, en fait, travailler les deux côtés. En fait, chacun a responsabilité, les personnes accueillies et les personnes accueillantes. Si, pourquoi j'ai dit ça, parce que les personnes qui viennent pour accueillir beaucoup de gens, ils donnent beaucoup. D'un coup, parce qu'ils étaient dans un collectif, parce qu'il y a des copains qui ont dit... Ah oui, on va faire l'accueil, du coup la personne vient aller chercher, on va chercher des personnes exilées. Bah, quand ils arrivent, ok, bah, restez chez moi. Il les traite comme un enfant, il leur donne tout son temps. Ah oui, en fait, comme tu as un petit chien, en fait, oui, j'aime bien mon chien, il aime bien manger ça, il n'aime pas manger ça. Hier, il a dit ça, aujourd'hui, c'est un truc de... Moi, je ne vois pas la place des êtres humains, là. Je vois comme on traite de façon qui n'est vraiment pas juste, quoi. C'est pas ça que c'est pas ça l'accueil, c'est pas ça la question des humains, aider, travailler ensemble, parce que le côté aider, ça fait, pour moi, ça fait un côté de supérieur et inférieur, parce que je t'aide, bah, j'ai pas besoin. Aussi, quand il vient de gens, des bénévoles, ça nous questionne même tous. Donc, en fait, ah, ok, bénévole, oui. En fait, est-ce que ça te dit d'être un peu salarié à mi-temps? Non, moi, je n'ai pas besoin. Du coup, je fais ça parce qu'il y a des gens qui ont le besoin et il faut le donner, il faut le faire pour eux, il faut le faire. Du coup, ça crée aussi un espace de supériorité. Et c'est un côté aussi qu'on a fait un appel pour travailler ça, en fait. Il faut qu'on travaille ça ensemble, à voir comment on peut faire pour que tout le monde se trouve sa place. Pas travailler d'un seul côté. C'est de travailler de deux côtés, en fait. Du coup, c'est ce qu'il y a dans les associations en ce moment, quoi. Bon, il y a beaucoup de travail. Ouais.
Super. Super. Es una excelente comunidad. Nos llevamos muy bien con todos. Nos apoyan, nos ayudan a... con las diversas actividades, lo importante pues es el apoyo que nos brindan, que no nos sintamos rechazados ni apartados por ser inmigrantes.
Ah, vous avez déjà eu des enregistrements de pain, j'imagine. Encore?
C'est trop beau ça aussi.
Tu tapes pour savoir si c'est cuit ?
Ouais, c'est ça. Ils ont des sonorités, semble-t-il, du fait de la bonne cuisson. Il y a un son que j'oublie toujours, mais je me frime à faire ça comme ça.
Il y a un groupe qui fait le four à pain. Et après, il y a le maraîchage. Et qui fait des tests et des plantes un peu exotiques et des légumes aussi. Cette année, on a fait 14 variétés de piments, des tomates. On a essayé de faire encore des cacahuètes, mais c'était galère parce que la terre était... On a mis beaucoup d'algues, du coup, les cacahuètes, ils n'ont pas besoin de terre riche. Ils ont besoin d'une terre qui va être un peu sableuse et pas très riche, quoi. Il y a la question de tester de sorgho. Parce que le sorgho aussi, on voyait qu'en fait, ça va donner beaucoup. Ça va donner avec le changement climatique. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et il y a des galères dans le sud pour avoir de l'eau et tout, avec le chestrich. Qu'on a dit, en fait, OK, bah, en fait, il faut tester le sorgho parce qu'il y a plusieurs variétés aussi pour lesquelles ça va donner. On a les semences qu'ils ont ici. Avec beaucoup de personnes qui ont des savoirs, qui ont envie d'échanger et tester aussi, comme à Viltanos, à Paris, et c'est un autre antenne aussi qui est là-bas avec Baco, qui l'a essayé cette année, il a fait Gombo, il a fait Bissap. C'est des tests qu'on a essayé de faire tout. C'est des avocatiers. On a trois variétés des avocats, As, Bacon, Fuerte. Et on a des citrons Verna, c'est un citron espagnol, là, qui ça fait 5-6 mois depuis qu'on a semé, du coup, ça pousse pas mal. Et aussi, on a des citrons Pensirus qui résistent à moins 20 degrés. Et du coup, c'est la question aussi de greffer cette citron-là sur les Pensirus. Et comme ça, on peut avoir des citrons en Bretagne qui donnent des citrons en Bretagne, quoi. Et on a aussi des kakis qu'on a fait, 1250 kakis.
Waouh!
Qu'ils ont.
Ça.
Ouais, ça, et là-bas et tout. On a essayé de tester des ananas aussi, qu'ils ont galère de partir, mais ça pousse quand même. Et cet espace-là, on ne sait pas, d'ici un an, peut-être on va essayer de faire une scène ouverte ici. Parce qu'aussi, c'est le besoin de plein des personnes qu'ils ont, soit des Français ou des étrangers. Le week-end, ils n'ont pas le moyen, donc ils ne peuvent pas sortir. On essaie de voir faire un truc, quoi, qui le week-end, la personne puisse venir passer le week-end ici, faire un scène ouverte pour chanter, danser, avec plusieurs, je sais pas, cultures différentes. Chaque fois, la personne pourra venir proposer quelque chose, danse, chante, et voilà.
Merci.
Donc, il y a qui fait du pain avec Anne, qui va un peu référencer pour faire du pain avec d'autres gens.
Et du coup, on est une petite équipe de, je sais pas, de 5-6 à faire du pain tous les samedis. On fait une fournée et on les vend sur commande et chez Prosper à côté, qui a un lieu associatif où ils font un peu de maraîchage, un peu de. Des repas partagés, des choses comme ça. Et du coup, le samedi, ils ont une épicerie, une légumerie, qui est ouverte là. Et du coup, ça.
Et des parpaings, une émission pour le grand remplacement.
Des fachos.
Par les gauchos !
Le racisme, dans ses manifestations d'insultes et d'agressions ordinaires, il va bien de quelque part. D'une partie des médias, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec les chaînes télé et radio de Bolloré, qui diffusent toute la journée une idéologie raciste et méprisante.
Mais aussi de l'État, par ses lois répressives et ses manœuvres d'exclusion et de stigmatisation. Et l'AD, le collectif d'aide aux droits des étrangers, en sait quelque chose et on va les entendre nous en parler dans un petit son.
A, B, C, K, U, R, I, M, L, O, B, Q, R, E, Je connais mon alphabet. Chantez avec moi, s'il vous plaît.
Les décisions qui sont prises dans par les lois, ben elles ont un impact énorme sur des vies, sur des petites vies, enfin sur des vies de tous ces gens qu'on accueille ici, quoi. Voilà ce que je voulais dire.
Au regard du contexte actuel où on a l'extrême droite qui arrive au pouvoir et qui a énormément appuyé sur la loi asile-immigration de janvier là, Darmanin, et qui a donc complètement mis en place des politiques au niveau du droit des personnes étrangères, a restreint encore énormément de choses. Et donc là, de fait... la peur qui est en train de se mettre en place, c'est que si on a un gouvernement d'extrême droite, ça va s'empirer encore et la vie réelle des personnes étrangères en France va encore s'abîmer, va encore être misérable et on va créer des situations inhumaines qui sont là depuis un petit moment.
Vous avez besoin de quelque chose à l'AD, de monde ?
De papier.
En fait, plus on est, mieux c'est, parce que aujourd'hui, les permanences, c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, c'est des permanences hebdomadaires. On accompagne quand même les personnes, donc on prend aussi du temps entre deux permanences pour envoyer des mails, passer des coups de fil, faire des courriers, etc. Et que, à côté de ça, on aimerait aussi avoir un engagement beaucoup plus politique. Et là, on manque un peu de temps et de personnes, quoi. Donc, on recherche toujours des bénévoles et devenir bénévole à l'AD, ça ne demande pas de formation spécifique ni rien du tout, puisqu'on est toujours en binôme. On essaye d'équilibrer les binômes de façon à ce qu'il y ait quand même toujours un ancien, une ancienne, avec un peu plus d'expérience et de connaissances. Et puis après, on fait aussi des temps d'auto-formation. Les temps aussi de mutualisation après les permanences, ça sert aussi à se former. Donc voilà, on peut venir sans aucun bagage, sans problème.
Par contre, ça rentre pas dans les 15 heures du RSA. Désolé.
Lélé, qu'il va pas casser. Oh lélé, va pas casser. Oh lélé.
Olele moliba makasi boka naye boka naye boka naye.
Alors Brigitte, toi tu milites pas à l'AD, tu milites à la gym. La GYM, c'est l'association d'accueil des jeunes isolés migrants sur Brest. Alors, avant de réagir un peu à tout ce qu'on a écouté, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et présenter, en fait, qu'est-ce que c'est la GYM ?
Donc, en fait, on accueille sur Brest, depuis à peu près 2016, des jeunes qui sont mineurs et qui sont arrivés tout seuls à Brest. Ça s'appelle un mineur non accompagné. Alors, en fait, quand on est mineur, en France, on a des droits. On a le droit de circuler, mais par contre, il faut absolument que l'administration française soit sûre que vous êtes un vrai mineur. Alors, pour être sûr que vous êtes un vrai mineur, on va leur faire passer des tests. D'abord, on les regarde. On dit, non, mais toi, t'as pas 15 ans, t'es beaucoup trop grand. Après, on va lui dire, et par où t'es passé, d'où tu viens? Ah bon, t'as laissé ta famille T'es venu tout seul? Avec qui? Et t'es passé par quel pays? Bon, on va leur poser plein de questions. Et puis, non seulement on ne va pas croire forcément qu'ils sont mineurs, mais on va leur demander des papiers. Il faut un extrait d'acte de naissance. Pas besoin de visa pour circuler en tant que mineur. Mais il faut prouver que t'es mineur. Donc, très rapidement, s'il est vraiment reconnu mineur ou même pas, la loi dit c'est l'aide sociale à l'enfance qui, dans chaque département, prend en charge les mineurs. Donc, l'aide sociale à l'enfance, elle a dans la loi, elle doit évaluer le jeune pendant 5 jours et le mettre à l'abri. Dans la réalité des cas, qu'est-ce qui se passe à Brest ? Il y a des jeunes, ils arrivent le matin, Et à midi, on leur dit, toi, t'es pas mineur. Sur quels critères? C'est pas parce qu'il y a une assistante sociale et une éducatrice qui leur ont parlé. Alors, qui leur ont parlé dans quelle langue?
Eh oui,
il y a tout ce problème de la langue. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont bien compris ce qui leur arrive?
Parce qu'il n'y a pas d'interprète systématiquement.
Alors, il peut y avoir un interprète, mais qui va être au bout du téléphone. Et puis, si par exemple t'es afghan, on ne sait pas si tu parles pachto ou dari. Donc il n'y a pas forcément le bon interprète. Donc ça pose tout un certain nombre de questions. Après, dans le meilleur des cas, on va attendre quelques temps et l'aide sociale à l'enfance va placer ces jeunes dans des hôtels où ils peuvent rester un mois, deux mois. La semaine dernière, il y en a un qui n'a pas été reconnu mineur. Au bout de 18 mois, ça faisait 18 mois qu'il attendait dans un hôtel en se demandant ce qu'il allait faire. Et puis un jour, on dit, t'es pas mineur, donc ils sont remis à la rue.
Et surtout que ça marche toujours, au bout d'un moment, t'es plus mineur, quoi qu'il arrive.
Oui, et puis au bout d'un moment, t'es plus mineur. Alors nous, l'association, qu'est-ce qu'on fait? On propose à tous ces jeunes mineurs, qu'ils soient dans les hôtels ou à la rue, on leur propose tout d'abord un enseignement pour qu'ils apprennent, le français, puis ils font des maths, des sciences. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir les scolariser rapidement et de qu'ils deviennent autonomes. Parce que quand tu ne parles pas français dans ce pays, t'es un peu mal. Et puis, il y a tout le volet hébergement pour tous ceux qui sont exclus, mis à la rue. Donc, je pense qu'on est une des seules associations, une des rares associations françaises qui fait ça. Quand on voit à Paris, y a des associations qui hébergent pour 2 jours. Puis le lendemain, c'est 3 jours. Et puis... Nous, on prend les jeunes et on va les héberger pendant des longues périodes, tout le temps que on puisse faire admettre leur minorité. C'est-à-dire pendant le temps où ils sont hébergés dans des familles ou dans des appartements collectifs, on va essayer de récupérer des papiers au pays qui permettent de reconnaître leur minorité. Une fois qu'on a les papiers, on va leur faire établir des documents d'identité auprès de leurs ambassades respectives.
Ça, c'est une aventure aussi. À Paris, les ambassades, selon les pays, c'est plus ou moins facile.
Oui, il y a des ambassades où c'est vraiment horrible. Il y a des ambassades où c'est formidable. Voilà, ça montre bien aussi la différence. Quand moi, il y a une des ambassades, je me dis, mais je comprends qu'il ne reste pas dans ce pays-là, parce que déjà, l'ambassade en France est tellement épouvantable que... Et puis, le comportement des membres de l'administration. Bon, alors après, ces jeunes ici, ils sont assez terrorisés par cette administration française. Ils disent, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Ils s'attendaient, en arrivant, à travailler... que l'argent tombait des murs, et qui pourraient travailler, envoyer de l'argent au pays, ou mieux vivre. Parce que souvent, ils vivaient pas bien. Donc, c'est un peu une déception de devoir attendre tout ce temps. Donc, c'est long pour eux, c'est désespérant. Il y en a un certain nombre qui sont en dépression d'attendre. Donc quand ils ont les papiers et tout, on fait une demande avec des avocates pour ce qui s'appelle une requête en reconnaissance de minorité auprès du juge des enfants. Et là, il faut attendre. Alors déjà, l'ambassade, là, en ce moment, j'ai fait une demande pour la Côte d'Ivoire hier. On a des places à partir de mars 2025.
Ah ouais.
Et une fois qu'on a le passeport, il faut attendre encore que la juge des enfants ait le temps, mais souvent on attend aussi 5 mois. Donc ils arrivent très rapidement à 18 ans. Et 18 ans, ils sont plus mineurs, ils sont majeurs. Et c'est une autre paire de manches.
C'est combien de temps la durée moyenne à peu près de tout le processus?
C'est l'année dernière, c'était 9 mois, là c'est plutôt 15.
Ok.
Mais entre-temps, on essaye de les scolariser parce qu'ils vont être protégés en étant à l'école. À l'école, on demande, dans les lycées, on ne demande rien. et donc scolarisés dans uniquement dans de l'enseignement professionnel, des CAP, d'électriciens, de maçons, de... Voilà.
Bon, mais du coup, le temps passe trop vite. Et on peut quand même raconter.
Oui, on a aussi rencontré une autre membre de la gym, d'ailleurs à Brest, dans nos sorties du week-end dernier, à Bim Bam Boom, un événement antiraciste et antifasciste organisé avec le sous-titre « Pour une Bretagne ouverte et solidaire ».
Eh bien, moi, je suis une militante antifasciste. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Garba. Et nous, on a créé ce collectif-là il y a un peu plus d'un an autour de plusieurs mots d'ordre, notamment le fait qu'on voulait avoir un discours politique sur la situation, que pour nous, l'antifascisme, ça se passait de plein de façons, que c'était pas qu'une question de tenir la rue, de tenir l'espace public, mais qu'il y avait aussi un vrai terrain culturel et un vrai travail de propagande à faire.
D'accord, je m'appelle Nancy, je dois avoir un peu plus de 60 ans de militantisme dans les pactes, divers et variés, pas du tout toujours sur la même chose. Aujourd'hui, je fais partie d'Adjim, accompagnement des jeunes isolés migrants. Mais la lutte contre le fascisme, je trouve ça fondamental. Et comme nous, clairement, on a raté ceux de ma génération, puisqu'on n'en serait pas là si on avait réussi, je me dis que je veux voir comment les jeunes... Ils se proposent de faire comment on peut les suivre, les encourager dans leurs idées et travailler avec eux si c'est possible. Voilà. Et donc je suis venue voir ce qu'ils avaient à dire là-dessus.
Et Bim Bam Boom, cet événement-là justement qu'on porte, ça s'inscrit typiquement dans cet objectif-là. L'idée, c'était un peu de sortir de nos espaces militants, d'aller à la rencontre d'habitants de quartiers, de parler de stratégie avec eux, de proposer aussi des choses un petit peu plus festives, de prendre aussi plaisir en fait à être et à faire des choses ensemble. Après là c'est le premier événement, donc nous on s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait tout le quartier qui débarque. Oui. Très clairement on sait que le travail de terrain c'est quelque chose qui prend du temps, que ça se fait pas comme ça, donc on s'était préparé à être deux sous un barnum. La météo en plus, bon, elle est pas trop de notre côté malheureusement, mais même s'il n'y a pas une énorme foule, bah effectivement, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qui habitent le quartier, qui ne sont pas militants a priori. Et donc ça, pour moi, mais je pense pour mes camarades aussi, au vu de ce qu'on s'est dit, pour nous, je pense que c'est vraiment une victoire.
Il y a des stickers, ouais. Voilà. Il y a des gens qui ont beaucoup la nuit pour mettre des
vivants. Moi, je suis raciste, hein. De ma manière de penser, mais tout ce que je vois, ce qu'on en parle... Et voilà. Et pourtant, je suis française. Et je deviens un peu raciste. Voilà.
C'est quoi le racisme pour vous ?
Pour moi, le racisme, c'est... C'est vrai, c'est une bonne question. Mais je deviens.
Oui, mais c'est quoi ?
Pour moi, le racisme, c'est pour les migrations, les gens qui sont... Après, je ne suis pas raciste non plus, mais je ne sais pas comment vous dire. Mais bon, moi je viens de tout ce que j'écoute. Même des fois, mes enfants me disent « Maman, t'es raciste ». Je ne suis pas raciste, je dis ça comme ça. Parce que c'est comme ça, c'est que moi aussi je fais la part des choses. Et on devient de...
Bah déjà si vous voulez venir à Bim Bam Mood, c'est cool parce qu'effectivement on a des gâteaux, on a beaucoup d'énergie, c'est du bricolage, mais on serait ravis de vous rencontrer.
Bon bah, faut espérer qu'il y aura moins de gens qui viendront comme ça alors. Bah j'espère, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas été élevé comme ça moi.
On va discuter pour voir comment on peut faire, faut pas être comme ça.
Effectivement en tout cas aujourd'hui plutôt on se retrouve pour lutter contre le fascisme et le racisme. Et on va continuer si ça vous va avec la présentation... de Rennes, Sud mobilisé contre les racismes et l'extrême droite. Si du coup ça vous va de présenter qui vous êtes, ce que vous faites très rapidement, parce qu'après peut-être sera plus dans la seconde partie où ça fera plus de stratégie. Voilà.
Et en parlant d'occuper le terrain contre le racisme et le colonialisme, et oui, parce qu'on a plusieurs reporters en même temps dans notre grande émission. On est parti aussi à Saint-Brieuc le même week-end où était organisé un tournoi de boules bretonnes, une façon festive et sportive d'occuper le terrain face au fascisme.
Alors, chers amis, le concours de boules, pour rappel, il est dans le cadre d'une semaine autour du 17 octobre 61. 17 octobre 61, c'est la triste date d'un massacre d'État. Et c'était un jour où l'État français par l'intermédiaire de sa police, a tabassé et jeté dans la Seine plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de militants algériens du Front de Libération Nationale. Et là, aujourd'hui, c'est dans le cadre de cette semaine d'action qu'on fait Stand Up Boule contre le racisme. Du coup, chaque équipe a choisi un nom d'équipe en lien avec la lutte contre le racisme.
Là, c'est bon. Ok. Donc, sur le terrain numéro... On va commencer la compétition. Tout le monde a eu le temps de s'échauffer en écoutant du bon son et de la bonne vibration. Alors, on va enchaîner avec le terrain numéro 4 où il y aura la rencontre entre Malik Oussekine et Aimé Césaire.
Alors voilà, nous sommes juste à la sortie du match. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ce match s'est déroulé? Déjà, quelle équipe était en jeu?
Alors là, l'équipe, c'était Gisèle Halimi et... C'était quoi ton équipe? Ah, Tia Roy. Non, ce fut un match vraiment avec des hauts, des bas, plein de rebondissements. Gisèle Halimi s'est pris une grosse raclée, mais l'amertume fait place à la joie. Avec un dernier lancé très, très, très professionnel. Voilà. J'essaie de dire qu'on a, on a perdu, mais avec classe.
Alors, la semaine, elle a commencé un dimanche avec une exposition du collectif Sans Papiers, Ville et Vilaine, sur les clichés sur l'immigration. Le mercredi, on a été devant ce centre commercial qui est en plein centre-ville de Saint-Brieuc pour sortir cette exposition et voilà, la proposer, la montrer aux gens qui passaient par là, un peu par hasard, les gens s'arrêtaient, discutaient. Le jeudi, il y a eu la commémoration du 17 octobre 61. Aujourd'hui, il y a eu ce concours de boules bretonnes contre le racisme. Et demain, il y a une cantine populaire dans un lieu associatif autogéré qui s'appelle La Serre. Une projection d'un film qui s'appelle White Power sur le suprémacisme blanc. Et le soir, une pièce de théâtre sur les événements du 17 octobre 61. Là, le Front commun antifasciste il s'est créé en décembre 2023 suite à une série d'attaques des fachos dans les Côtes d'Armor sur des syndicats, partis politiques et notamment sur un lieu associatif qui s'appelle La Serre. Des tags, des bris de vitres et ça a été jusqu'à l'agression physique. Suite à ces attaques, on s'est groupé avec toutes les personnes qui considéraient qu'il y avait un danger fasciste. On s'est rassemblés et avec l'idée de lutter contre la menace fasciste, aussi bien celle des fachos en cagoule là, qui sont venus nous attaquer, mais aussi de dénoncer les fachos en costard, parce que sans eux, il n'y a pas de fachos en cagoule. On garde l'idée de faire un événement contre le racisme, contre le fascisme, contre le colonialisme, tous les mois.
Merci à tout le monde d'avoir participé.
Voilà, on a écouté plein de sons sur plein d'initiatives différentes. Et, tout ça est bien intéressant et convergent. Nous, on aimerait bien savoir, Brigitte, qu'est-ce qu'il y a derrière un engagement dans une association comme AJIM, pour toi, dans la lutte contre le racisme ou est-ce que tu l'inscris comment dans le contexte politique actuel?
Alors, je ne l'inscris pas dans le contexte politique actuel. Je l'inscris dans mon histoire d'abord. Et mon histoire, c'est que vous avez peut-être vu, je suis issue des années 70. Donc, grande époque du féminisme naissant. Grande époque aussi du fascisme montant en Amérique latine. Donc, moi, le Chili, c'est vraiment un moment très symbolique. Avec, dans les années 70, beaucoup de Chiliens qui sont arrivés. Moi, du coup, je suis partie en Amérique latine. Et puis après, ici, à Brest, ça a été l'engagement dans un mouvement féministe qui s'appelle le planning familial, qui, là, m'a fait découvrir un outil formidable que j'ai pratiqué pendant plus de 30 ans, qui s'appelle le théâtre de l'opprimé. Donc, en fait, tout ça, ça m'amène à la gym. Tout ça, ça m'amène à être aux côtés des personnes en exil, ça m'amène à être aux côtés des femmes victimes de violences, ça m'amène à être auprès des personnes... J'ai fait tout le tour de Brest pour que les gens me racontent de quoi ils étaient victimes. Donc, et puis à un moment, j'arrive chez ceux qui sont opprimés en ce moment, c'est-à-dire les mineurs non accompagnés.
Et ils font du théâtre ?
Oui, cet été, je leur ai fait faire du théâtre, bien sûr. Non, non, il y en a fait plusieurs pièces de théâtre.
Et de la radio aussi.
Et cette semaine, on a fait de la radio. Ça fait changer le regard. Par exemple, eux, quand ils vont avec le micro dans la rue, faire du micro-trottoir, ils se disent, mais le blanc, il ne va jamais vouloir me parler. Et puis si, les blancs, ils leur parlent quand même. Ils s'aperçoivent que finalement, on n'est pas si terrible que ça.
Du coup, ben voilà, en fait, on s'est un peu retourné le ciboulot quand même pour faire tenir cette émission debout, vous donner un fil conducteur assez clair et dans le même temps proposer ce beau patchwork tout bigarré. On s'est demandé comment lier tout ça au thème principal de l'émission quand même, qui est la lutte contre l'accaparement des terres, du foncier. Et en fait, c'est comme ça qu'on l'a trouvé, le...
Occuper le terrain.
Pour dire qu'occuper le terrain, c'est lutter, avec du bim-bam-boum par exemple, mais c'est aussi le droit de l'occuper en paix. Pas parce qu'on se ferait un hamac de nos privilèges, mais parce que notre rapport aux autres et au terrain serait tout simplement non prédateur, antiraciste.
Ça fait un peu penser à Cultiver l'appartenance de Bell Hooks, cette grande militante du black feminism. Le recueil a été traduit en français l'année dernière et regroupe plusieurs textes écrits tout au long de sa vie. Elle réfléchit à l'appartenance à la terre, à un endroit. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se trouver là, chez soi ?
Ce livre, c'est un kaléidoscope, mais on a choisi ce passage pour conclure. C'est dans le chapitre « Reprendre la nuit, reconstruire le présent ».
Un véritable chez-soi est un lieu, n'importe quel lieu, qui nous nourrit pour nous permettre d'évoluer et qui nous apporte de la constance. C'est indéniable que des changements se produisent tout le temps, qu'on le veuille ou non, mais nous avons tout de même besoin de constance. La Terre est notre premier foyer, et c'est là que nous reviendrons reposer à jamais dans notre dernière demeure.
Alors, on est pour un monde antiraciste, antifasciste, mais pour un monde où la Terre appartient à celles qui en prennent soin et qui vivent, comme l'a dit Idriss, avec. Avec les autres, avec les saisons, avec tout tient dans la relation de réciprocité.
Et pour reciter Bell Hooks dans le chapitre « Rouvrir la plaie »,
je suis convaincue que pour reprendre espoir en un monde qui transcende la race, il nous faut construire des communautés où notre estime de nous-mêmes ne proviendrait pas d'un sentiment de supériorité sur tel ou tel groupe, mais de notre rapport à la terre, aux gens et à l'espace, quel que soit le lieu où on se trouve. Lorsque nous créons des communautés soudées par l'amour, des environnements antiracistes et inclusifs, il importe peu que ces espaces soient diversifiés. Ce qui compte, c'est que les différences puissent y rentrer et y trouver une terre d'accueil, un endroit auquel appartenir.
Pour clôturer cette émission, les désannonces. On a utilisé un morceau de percu de Michael Welch et l'instrumental d'un morceau collectif de rap de 1997 appelé 11 minutes 30 contre les lois racistes.
Côté actu ?
Alors côté actu, on peut d'abord parler de la saison 1 des Soulèvements de la Terre de Mervent. Et oui, en fait, le rassemblement contre l'Empire Bolloré à Concarneau, ce n'était que l'acte 1 de cette saison en Bretagne sud-ouest. On se retrouve donc le 3 novembre à la place de Kerguelen à l'Armor-Plage pour manifester contre le projet de Thalasso. C'est l'acte 2, donc l'échappée du vivant à la Thalasso. L'acte 3, c'est le 22 novembre à Glomel contre l'extension de la mine d'Andalousite récemment validée par le maire. Plus d'infos sur la page Facebook Mine de Rien à Glomel.
Le 10 novembre de 14h30 à 17h30 à Kraft, à l'hôpital Canfrout, il y aura un arpentage du livre 10 questions sur l'antifascisme du collectif La Horde qui est proposé par les Briseuses de Glace.
Et puis sur le site www.lisbethmedia.com, un média d'initiative féministe qui a été créé sur Brest. Nous avons réservé toute une série aux luttes antifascistes en France, dont un épisode, l'épisode numéro 6 sur 7, consacré aux jeunes mineurs isolés, avec l'interview d'une association sur Besançon qui s'appelle Sol Miré. Et dans cet article, on recommande aussi beaucoup le film documentaire Le Chant des Vivants, qui est absolument magnifique.
Voilà, et un petit mot sur la pétition qui s'appelle Bardella hors de nos gares. Voilà, c'est une pétition qui circule parce qu'on pourrait bien se passer de voir la tête de Bardella partout pour la promo de son livre, surtout dans nos gares. Là, c'est encore grâce à notre ami Vincent Bolloré qui détient pas mal de maisons d'édition, mais aussi les points relais. Donc voilà, on évite de voir la gueule de Bardella partout.
Meurs, Bolloré.
Petite initiative lancée par Sudrail et le mouvement. Voilà, fini.
Bon, et ben on vous rappelle que cette émission est sur le site de Piquesse pour tous ceux qui nous écoutent en FM sur plein de radios qu'on remercie beaucoup. Vous pouvez nous trouver sur le site de Piquesse et aussi sur Spectre sur Internet.
Et merci beaucoup à Brigitte d'être venue parmi nous. Et merci à toutes les personnes qui ont répondu dans nos reportages. Et voilà.
Oui, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci la radio.
Merci à vous.
Salut. Bisous.